Bien, enchaînons avec Jean-Paul Martin, donc ancien maître de conférence à l'Université de Lille 3, membre du GSRL, groupe Société, Religion, Laïcité. Voilà, donc il a travaillé sur le syndicalisme révolutionnaire dans la métallurgie, hein, et également sur l'histoire de la Ligue de l'enseignement. Et il a été aussi un témoin, un acteur de cette période des années 68. Et c'est donc à ces deux titres qu'il intervient aujourd'hui pour traiter d'André Garnier. Donc André Garnier, une vision du socialisme comme réponse à la crise industrielle de la région stéphanoise.
Merci. Oui, je suis très heureux d'évoquer la figure d'André Garnier, qui est certainement... l'homme qui a exercé la plus grosse influence intellectuelle et politique sur moi au moment de ma première formation politique, on peut dire, de mon entrée en politique à Saint-Étienne, au PSU, en tant qu'étudiant. Alors, je suis très heureux de parler de lui, mais je mesure en même temps la délicatesse de cet exercice. Car je crois, quand on parle de quelqu'un dont on a été très proche, qu'on a connu de près, et que ça remonte en plus aux souvenirs de jeunesse, on risque soit l'idéalisation, la géographie, et puis l'idéalisation aussi de la période, comme les discussions étaient belles en ce temps-là, ou au contraire, le dénigrement. Si on décide, pour une raison ou pour une autre, que ces discussions belles autrefois sont aujourd'hui révolues, fort closes. Donc, j'ai essayé de me tenir à distance de ces deux attitudes en opérant finalement tout simplement une démarche d'objectivation historique. Mais là, je me suis heurté à une autre difficulté, c'est que au moment de préparer ce petit topo, je n'avais pas les archives, je n'avais pas beaucoup d'archives sous la main, en raison de mon éloignement de Saint-Étienne notamment. Je n'avais ni les archives d'André Garnier lui-même, on vous en a parlé tout à l'heure, ni celles du PSU, ni mes propres archives de cette période qui avaient été déposées ici à Saint-Étienne dans divers lieux. Alors heureusement, j'avais quand même gardé sous le coude quelques papiers, des notes glanées ici ou là, ce qui me permet de ne pas être totalement prisonnier de mes seuls souvenirs. Alors, j'évoquerai d'abord son itinéraire politique, son itinéraire militant, son approche personnelle du socialisme jusqu'en 1968. Et dans un second temps, je présenterai l'analyse de la crise de l'économie stéphanoise, faite alors collectivement par le PSU, donc dont il est un dirigeant et dont il est peut-être l'inspirateur essentiel. Alors j'ai choisi de me concentrer sur les années 60, hein, et au risque de décevoir, je m'arrêterai à l'aube de 68, car il me semble que c'est en effet le seul moment où la Fédération PSU de la Loire articule de manière publique sa vision du socialisme avec une approche spécifique de la crise économique locale. Et ce lien entre enjeu régional et réflexion idéologique est largement perdu de vue par la suite, après 68. Puis ça correspondait aussi au fait que c'est là-dessus que j'avais des documents sous la main. Alors, en avril 1960, lors de la fondation du PSU, André Garnier devient membre du comité politique national de ce parti, qui est nouveau. Et je dirais simplement, son expérience à ce moment-là est celle d'un militant et d'un intellectuel du mouvement ouvrier, de formation largement autodidacte. Elle se résume à trois engagements, à quatre si on y ajoute la résistance, hein, dans laquelle il s'est engagé à 16 ans. Il est né en 1927, et qui a été une période très importante pour la formation, je dirais, de son imaginaire politique. Alors, ces trois expériences, c'est d'abord la JOC, dont il a été un militant dans son village natal de Saint-Didier-en-Velay, en Haute-Loire, avant de devenir permanent national entre 1950 et 1953. Ensuite, le syndicalisme à la CFTC, ou plus exactement, je passe très vite là-dessus, à la minorité CFTC, le groupe Reconstruction, dont il a été à la fois entre 53 et 57, si je ne m'abuse, un des principaux piliers à Saint-Étienne, à son retour donc de Paris après la JOC, et dont il a été aussi, il a pris diverses responsabilités, je crois qu'elles ont été évoquées ce matin, dans l'UDCFTC puis CFDT, et il a été aussi, comme il le disait lui-même, le commis voyageur du groupe Reconstruction, c'est-à-dire un des hommes qui a véritablement activé beaucoup pour l'évolution interne de la CFTC puis CFDT. Enfin, troisième expérience, l'engagement politique qui est devenu essentiel pour lui et qui s'est concrétisé sur fond de guerre d'Algérie, d'abord à l'UGS, une des petites formations, l'Union de la gauche socialiste, une des petites formations donc, qui allait constituer le PSU. Et il était même, je dirais, localement à Saint-Étienne, en position de leader de cette gauche nouvelle, puisque en 1959, il dirige la liste aux élections municipales, la liste UFD, Union des forces démocratiques, qui regroupe, je dirais, la fine fleur des militants de cette gauche nouvelle à ce moment-là. C'est un échec électoral complet, mais qui le conduit tout droit au PSU. Alors au PSU, dans la période comprise donc entre la fin de la guerre d'Algérie et mai 68, je dirais qu'il occupe une posture idéologique, à mon sens, très originale, et je ne dis pas cela simplement parce que je l'ai connu, et même peut-être relativement unique, qui mérite d'être rappelé à cet égard, avec une constante qui est sa proximité idéologique avec Gilles Martinet, pas précisément le fondateur de France Observateur, mais surtout l'auteur du Marxisme de notre temps, un livre paru en 1962, qui je crois a été un élément permanent de référence pour André Garnier. Livre qui était un essai politique à ce moment-là, qui je l'ai relu d'ailleurs récemment pour avant de venir ici, et c'est un livre qui mérite tout à fait d'être relu aujourd'hui, où il défend et illustre une pensée marxiste pour analyser les contradictions à la fois des sociétés capitalistes avancées, mais aussi des sociétés socialistes. Je crois que ça a été... Martinet faisait partie de ces gens qui voulaient appliquer le marxisme au décodage des contradictions internes des sociétés dites socialistes, du bloc socialiste. Cet essai aborde aussi les problèmes de la construction d'une gauche nouvelle face aux partis traditionnels, et qu'il résumait donc sous forme de thèse. Il y a un endroit dans le livre, je possède d'ailleurs l'édition originale d'André Garnier que Janine, sa veuve qui nous a quittés il y a quelques mois, m'avait donné, et il y a un passage effectivement qui est annoté dans ce bouquin, qui est celui où Martinet résume ses thèses. Bon, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail. Alors, avec cette constante, en même temps, il y a chez lui ça s'est traduit par une stratégie que je résumerai en parlant de lutte sur deux fronts. Lutte sur deux fronts alternés. D'abord contre les archéos, ceux qu'on appelait les archéosocialistes à l'époque, comprendre les partisans d'un classique retour à l'Union de la gauche, regroupés à un moment dans le PSU autour de Jean Popren. Bon, face à ce courant avec qui les débats sont acharnés, y compris dans la Loire, jusqu'en 64, Garnier se range parmi les partisans du renouveau. Non qu'il croit possible de faire table rase du passé, de faire abstraction de la réalité des forces du mouvement ouvrier telles qu'elles sont, mais parce qu'il pense que pour réussir, l'unité de la gauche est inséparable de sa rénovation. Alors, rénovation des modalités d'alliance interne, impliquant non seulement des partis, mais des organisations syndicales et populaires, comme les mouvements familiaux, les organisations d'éducation populaire, etc., dans la construction d'un front socialiste, selon la terminologie de l'époque, dont un grand PSU, le rêve d'un grand PSU, formerait l'aiguillon. Rénovation de la stratégie, dont l'expression principale va devenir assez rapidement le contre-plan, ce que le PSU appelait ainsi, c'est-à-dire la définition d'une alternative crédible aux options du cinquième plan de l'époque, le débat sur le contre-plan devant devenir une sorte de débat politique majeur de société sur lequel on présenterait une alternative globale. Je n'ai pas le temps là non plus d'entrer dans plus d'explications. Rénovation des hommes et des dirigeants ensuite. André Garnier, notamment, entretiendra une correspondance assidue avec Pierre Mendès France dans ces années-là, alors que la présence de PMF est perçue par beaucoup de militants du PSU comme l'intrusion d'un politicien bourgeois. Il entretient une correspondance avec lui, en 62, par exemple, il lui écrit « Je continue à penser que nous avons besoin de vous, hein, pour prendre la tête du PSU, en gros, et réciproquement d'ailleurs. Hein, il y a cette idée qu'il y a une sorte de donnant-donnant, si vous voulez, dans le rapport avec Mendès France. Mais, alors c'est là le deuxième front, si vous voulez, la rénovation implique aussi une fermeté sur la ligne idéologique du socialisme, contre ce qu'il appellera, et ce qu'on appellera à l'époque, le courant moderniste ou technocratique, qu'il a appelé parfois en termes très durs le courant des liquidateurs du socialisme. Le mot semble très fort, et il entendait par là le règne des experts, des compétences, nécessaires pourtant, mais qu'il fallait contrôler. C'est-à-dire tout le problème, c'était d'arriver à contrôler les experts, mais de les avoir avec soi. Alors cette position s'exprime, entre autres, au moment de la rencontre socialiste de Grenoble, en 1966, dans le document que rédige le comité stéphanois de cette rencontre, où il y a véritablement là une critique assez dure de certains représentants de la gauche nouvelle. Et à l'époque, il y a un certain Michel Rocard, qui s'exprime à Grenoble sous le pseudonyme encore de Georges Servet, qui est dès ce moment-là dans le collimateur de gens comme Garnier. Bon, je passe là-dessus. Cette rencontre de Grenoble est très importante. Elle sera suivie de rencontres socialistes régionales à l'échelle Rhône-Alpes, où la Loire prendra encore toute sa part. Une rencontre à Oullins à la fin de 66 pour discuter justement de la région comme enjeu du socialisme, et une rencontre à Saint-Étienne qui avait été prévue, ça tombait vraiment à pic, début mai 1968, et qui devait parler de la démocratie dans l'entreprise. Elle a eu lieu d'ailleurs, hein, puisque le blocage a eu lieu la semaine d'après seulement. Bon. Alors comment cela a alimenté l'analyse de la crise ? Ma source ici sur laquelle je m'appuierai, c'est la collection presque complète que j'avais dans mes dossiers d'une petite feuille, je dirais, de 4 pages qui s'appelait Loire Information, qui a paru entre 1963 et 1968, si ma mémoire est bonne, qui était l'organe officiel du CES, le Centre d'études socialistes, dont le dirigeant était Marc Bouchardeau, Huguette Bouchardeau en était aussi, d'autres dirigeants du PSU, mais qui était ouvert sur des syndicalistes, principalement de la CFDT, et des militants d'organisations de type familial, etc. Alors, c'est un peu l'organe officieux du PSU, si vous voulez, en fait. Alors, dans ce journal, de nombreux articles sont consacrés à l'économie locale, rédigés par André Garnier ou par Bruno Vénin aussi, tantôt sur leur signature propre, tantôt sous divers pseudos. Alors, ce qui frappe à relire ces articles, c'est d'abord le caractère global du diagnostic qui est porté sur la crise de l'économie locale et sur la nécessité d'une méthode nouvelle pour y faire face. Un simple catalogue de mesures de défense de l'emploi ne suffit pas. Plusieurs éléments doivent être mis en corrélation et appellent des réponses coordonnées, notamment la rénovation du tissu industriel, création d'industries nouvelles fabriquant des produits finis, pas seulement de la sous-traitance, développement des zones industrielles comme celle d'Andrézieux, qui ne doivent pas être monopolisées par les industries locales. Or, pour attirer des industries de l'extérieur, il faut faire face, par exemple, au désenclavement de Saint-Étienne, au développement d'un parc de logements suffisant pour attirer la main-d'œuvre qualifiée tout en restant accessible aux classes populaires, et le développement de l'enseignement technique ou le démarrage de l'enseignement supérieur autonome. Faute de cet ensemble de mesures, on insiste dans les articles sur le fait que les habitants ne resteront pas sur place, ils iront à Lyon, ce qui a commencé à se faire, et le Grand Lyon sera appelé à devenir le Paris de la région Rhône-Alpes. Alors, l'orientation s'apparente à un contre-plan régional, bien que le terme ne soit pas réellement utilisé, où les spécialistes et les compétences côtoieraient dans les débats les militants des organisations populaires. C'est ainsi que deux colloques purement stéphanois vont être organisés, l'un en 64 qui s'appelle « Colloque pour l'expansion et la démocratisation de la région stéphanoise » en juin 64, le second l'année suivante sur l'urbanisme. Mais si les compétences techniques sont requises, il s'agit aussi de se positionner politiquement, ce qui passe par une critique sans concession de la responsabilité des pouvoirs en place. Alors, les principaux responsables de la crise qui sont désignés à ce moment-là dans cette vision sont d'une part le patronat et les notables locaux, patrons de PME, conseil général de droite présidé par Antoine Pinet, qui n'ont rien vu venir ou qui ont laissé pourrir la situation par peur de voir bousculer leur rente de situation, en fait. Les grands groupes financiers, dont la stratégie consiste à supprimer les emplois dans les régions faibles au profit des régions en expansion, hein, il y a cette opposition, régions faibles, régions en expansion, aggravant la crise et la perte d'initiative de la région stéphanoise. Le pouvoir gaulliste, enfin, qui, en dépit de sa volonté technocratique et moderniste, s'aligne sur les intérêts des grands groupes industriels et financiers internationaux et entérine une concentration économique à outrance qui renforce les forts, appauvrit les faibles, là je cite, sur le plan des entreprises comme celui des régions. L'aménagement du territoire devient ainsi un vœu pieux. Il y a beaucoup d'articles qui dénoncent cela. Pour toutes ces raisons, il ne peut y avoir de solution, finalement, qu'à travers une alternative globale au capitalisme, posant les jalons d'une société socialiste et capable d'articuler trois leviers. Alors, ces leviers, c'est d'une part l'État central, renforcé par la nationalisation des industries clés, qui est le thème fondamental de Garnier dans sa critique des modernistes depuis Grenoble, nationalisation des secteurs clés de l'économie, contrôle de la fonction d'investissement, seule manière d'imposer une planification réelle. Deuxièmement, la démocratisation des prises de décision permettant le contrôle des travailleurs et des citoyens sur les décisions qui les concernent, depuis la consultation dans les organes d'élaboration du plan, depuis les entreprises jusqu'au niveau central, la consultation des habitants sur le tracé d'une autoroute ou l'aménagement des nouveaux quartiers. Et enfin, il s'agit de promouvoir un niveau régional, et ça me paraît particulièrement original, un niveau régional de décision à l'époque, comportant ces organes représentatifs, assemblées élues, exécutifs régionales, qui représenteraient les intérêts de la région auprès des ministères et du commissariat au plan, l'établissement d'un plan de développement régional, l'attribution de pouvoirs, comme celui d'avoir un budget autonome pour la création d'entreprises, d'une banque régionale d'investissement, etc., etc. Je conclus. Alors, on mesure l'ambition, effectivement, de ce projet, dont seules certaines dimensions techniques en matière de régionalisation, notamment, sont restées, je dirais, sont réalisées ou apparaissent aujourd'hui étant, si vous voulez, possibles, compte tenu de l'échec du projet politique qui sous-tendait le reste. Mais je terminerai en disant que, me semble-t-il, ce projet politique n'a pas trouvé sur le moment sa base sociale ni sa place dans le champ politique local, puisque le PSU et la gauche nouvelle sont restés électoralement squelettiques, malgré la faiblesse relative à Saint-Étienne de la gauche non communiste, traditionnelle, qui aurait pu permettre éventuellement plus leur émergence. Alors, ce projet s'est trouvé coincé, d'une part, entre l'emprise de la culture communiste sur une très large fraction de la classe ouvrière locale, et d'autre part, je dirais, le conservatisme des classes moyennes traditionnelles, deux facteurs se cumulant pour rejeter un discours qui voulait mêler compétences techniciennes et anticapitalisme. De ce point de vue, la sociologie de Saint-Étienne ne ressemble pas à celle de Grenoble. Je n'épiloguerai pas là-dessus. Cette stratégie de lutte contre la crise n'a donc pas vraiment mordu sur les milieux populaires. En dehors d'une élite de militants, il est vrai bien représenté dans la région à cause de la force des organisations chrétiennes, mais dont la présence a peut-être fait écran et fait illusion. Et il me semble, et je terminerai là-dessus, qu'André Garnier avait eu peut-être le pressentiment de ce divorce entre les masses et les militants, même si sans doute il ne se serait pas résolu à l'accepter, dans un article que j'ai découvert avec surprise à la fin de cette série de numéros de Loire Information, et qui est intitulé « La longue marche ». J'en retiendrai seulement l'une des dernières phrases. « Celles et ceux qui luttent pour une société démocratique et d'autogestion, le mot est prononcé à l'époque, on est en 66, doivent savoir que leur marche, à travers les mécanismes de la société technicienne, est aussi longue, aussi difficile, et souvent peut-être plus décourageante que celle de Mao Tse-Tung, même si elle se déroule dans des conditions physiques très différentes et somme toute plus agréables. » Voilà.
Merci.